sur franceinter.fr, découvrez Pop-Up, des lives inédits en vidéo. Ce mois-ci, on prend de la hauteur avec Alain Souchon.
Je monte là-haut, m'assois, quand la ville s'allume, je regarde le soir.
Des morceaux joués pour vous dans le ciel de Paris,
je fume.
Au sommet de la maison de la radio.
Jaloux du soleil.
Les sessions Pop-Up, à voir, à écouter sur franceinter.fr et nos réseaux sociaux.
France Inter aime.
Mank, it's Orson Welles.
Of course it is.
Mank, un film de David Fincher sur Herman Mankiewicz, célèbre scénariste de Citizen Kane, le film culte d'Orson Welles.
Mank,
Mank,
Mank.
This is Herman Mankiewicz, but we have to call him Mank.
Herman Mankiewicz.
Gary Oldman est Mankiewicz, un homme complexe, parfois contradictoire, mais toujours intègre.
Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey?
Retrouvez l'âge d'or des studios hollywoodiens, Mank. De David Fincher, seulement sur Netflix, avec France Inter.
France Inter, il est 20h04, le masque et la plume avec Jérôme Garcin.
Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sans public, malheureusement au théâtre de l'Alliance française, pour un masque et la plume consacré à l'actualité DVD et VOD du cinéma, la dernière du genre, avant la réouverture le 15 décembre enfin, des salles de cinéma, et ce soir, heureusement, avec Charlotte Lipinska de Vogue, Pierre Murat de Télérama.fr, Eric Nohoff du Figaro et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession. Et d'une heure en série, tous les samedis soirs, le rendez-vous qu'on ne manque pas sur France Inter. Et on parle de parfum de femme, de peau d'âne, du goût du saké, du trou, d'un film méconnu, en tout cas que je ne connaissais pas, de George Miller, Lorenzo, et honneur à Sean Connery de Bon Baiser de Russie. Dans le courrier de la semaine, à propos de Full Metal Jacket de Kubrick, Jean-Frédéric Joannin n'a pas apprécié d'entendre Camille Nevers condamner Kubrick au prétexte qu'il ne s'intéresserait pas au personnage féminin, en quelques phrases péremptoires et définitives. Et c'est signé Jean-Fred qui nous dit un auditeur qui apprécie autant Adèle Haenel que Roman Polanski. Au contraire, Daniel remercie Camille pour sa critique du cinéma de Kubrick. Je me sens moins seul. Nous dit Daniel, pour moi Kubrick a toujours fait passer la prouesse technique et esthétique avant la sensibilité, tuant toute émotion dans ses films. Il déshumanise ses personnages qui sont les pièces d'une froide mécanique cinématographique. La seule œuvre que j'apprécie de lui et que je ne me lasse pas de revoir est 2001, seul film à mon avis où ses défauts deviennent des qualités. Un film admirable et glaçant, ajoute pour sa part Patrick de Sèvres de Bruxelles, qui nous montre comment on devient un tueur avec un final crépusculaire. Quant à Monsieur Proust, oui, nous avons des auditeurs qui s'appellent Proust, il me reprend, il a raison. Non, Full Metal Jacket ne se traduit pas, comme vous l'avez fait, par balle blindée, c'est costume tout métal, en référence au cercueil en métal dans lequel étaient rapatriés les corps des GI morts au Vietnam. À propos de la cérémonie, Jérôme Duvivier de Lyon nous écrit « Ce n'est pas seulement un des meilleurs Chabrol, c'est aussi un film » qui exprime parfaitement la domination qu'exercent les classes aisées par la maîtrise des codes culturels. Lorsqu'on n'a pas le langage, comme le personnage de Sandrine Bonnaire, on n'a à sa disposition que la violence pour s'exprimer. Pierre-Jean Devolvé aime bien la formule du masque pour temps de confinement. L'annonce d'un reconfinement il y a quelques semaines aurait été insupportable si elle ne permettait au masque de n'évoquer que des chefs-d'œuvre. Quel plaisir de vous entendre parler de Carpenter plutôt que de Maïwenn, de Pasolini plutôt que de Dupontel, de Melville plutôt que des frères Russo. Et dans ce cadre, je voudrais vous conseiller un chef-d'œuvre trop méconnu à mon goût, ressorti en DVD et Blu-ray, qui s'appelle Lorenzo, superbe mélodrame médical, autant que thriller métaphysique signé du génial George Miller. Eh bien, soyez heureux, cher Pierre-Jean Devolvé, on en parle dans quelques instants. Et enfin, rendons à César ce qui revient à Tamasa Distribution. On doit en effet à cet éditeur la restauration par TF1 Studio de Thérèse Alain Cavalier, supervisée par le cinéaste lui-même. Film disponible en Blu-ray DVD depuis le 25 novembre, qui sortira en salle fin janvier ou début février. Je le précise parce que j'avais à l'antenne dit que c'était une réédition disponible chez Arte Vidéo. Or, c'était l'ancienne version, la nouvelle, et donc chez Tamasa Distribution. Voilà, on commence avec le trou. Le dernier film en 1960 de Jacques Becker, qui est mort juste pendant le mixage et qui ressort en version restaurée Blu-ray chez Studio Canal. Ça se passe en 1947 à la prison de la Santé, où quatre détenus qui risquent de lourdes peines, joués par Michel Constantin, qu'on reconnaît tout de suite, les autres beaucoup moins, Jean Kérodi, Philippe Leroy-Beaulieu et Raymond Meunier. Donc les quatre préparent minutieusement leur évasion en creusant un tunnel dans un coin de la cellule, jusqu'au jour où débarque dans cette cellule un jeune prisonnier à la gueule d'ange, qui est Marc Michel, que les quatre autres vont mettre dans la confidence. Il faut pas en dire davantage. Certains ne connaissent pas l'épilogue de ce film en noir et blanc de 2h10, tiré du roman de José Giovanni, qui co-signe le scénario, roman lui-même inspiré de faits réels, un film à l'ancienne, étrangement ovationné par la nouvelle vague, Truffaut parlait même de chef-d'œuvre, tandis que Melville le considérait comme le plus grand film français jamais réalisé. Film d'ailleurs très propre sur soi. Moi, j'ai été très frappé en le revoyant de voir à quel point cet univers carcéral était ripolliné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le sentiment de la saleté qu'on pourrait imaginer dans une prison comme la Santé. Pierre.
C'est un très très grand film. Moi, je l'avais vu plusieurs fois, mais en le revoyant là, j'ai été frappé de constater à quel point, bien sûr, tout le monde parle parce que c'est Becker de côté documentaire, comme ça, très pointilleux, et c'est ça qu'il savait faire dans tous ses films, c'est-à-dire que le talent de Becker, un des talents de Becker, c'est de prendre chaque personnage et de le définir très très vite et d'avoir sur lui un regard extrêmement humain, extrêmement fort, et c'est ça qui rend ses films extrêmement touchants. Mais là, en le revoyant une nouvelle fois, je me suis aperçu à quel point c'était un film romanesque, c'est-à-dire qu'on est suspendu pendant pratiquement 2 heures à tout ce qui leur arrive, c'est-à-dire que c'est vraiment un vrai suspense. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Et par exemple, que Melville, tu as cité Melville, Jérôme, qui admirait ce film, mais c'est pas étonnant, nous avons parlé dans une dernière...
Non mais il admirait, c'était plus qu'admirait, le oui. Plus grand film français jamais réalisé, ça me paraît un peu excessif.
Peut-être un peu
c'était
excessif.
C'était pour dire du mal des autres aussi.
oui, en plus, parce que Melville... Non mais en même temps, puisque nous avons parlé lors d'une émission précédente du Cercle Rouge, eh ben, ça me paraît logique qu'il aime ça, parce que, en effet, il y a une sorte de, dans la poursuite, enfin, dans les sous-sols de la prison, quand il creuse, ça rappelle absolument le long plan séquence dont on avait parlé sur le Cercle Rouge. Donc, il y a une affinité, une parenté. Moi, je trouve que c'est un film absolument remarquable, et dans son humanité aussi.
Xavier.
Il n'y a pas que la propreté de la prison qui nous stupéfait un tout petit peu, c'est des dialogues extrêmement écrits.
Très écrits.
Très écrits, qui n'ont rien...
Mais ça, je pense que c'est dû à Giovanni.
Sans doute,
qui adaptant son propre roman.
Voilà, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus réaliste en termes de dialogue, et on a quelque chose d'un peu suranné, de très bien écrit, de romanesque. Littéraire, de romanesque, tu as tout à fait raison. Et ça fonctionne extrêmement bien face à ce que tu as décrit, c'est-à-dire... un réalisme dans la mise en scène, il y a une utilisation du temps réel où on voit les gestes se répéter, on creuse à la petite cuillère et on voit le temps que ça prend pour percer un premier trou puis aller encore plus loin et puis prolonger l'effort. C'est assez extraordinaire effectivement de voir qu'il y a très peu d'ellipses à l'intérieur de ce film-là.
En même temps, à l'époque, les petites cuillères étaient beaucoup plus solides. Hein,
beaucoup plus.
Parce qu'on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui.
Tu as raison. Il y a un sens du cadre et du décadrage qui est assez saisissant. Il y a un moment où ils inventent une sorte de périscope avec une brosse à dents. Il y a un bout de miroir comme ça. Et effectivement, on a un immense gros plan, pratiquement
anamorphosé. Qui leur sert à surveiller les coursives de la prison.
Et qui aura une finalité dans le dernier quart d'heure que je ne révélerai évidemment
pas.
Non, mais je ne dis rien, absolument, mais tout est extrêmement bien pensé chez Becker, et la précision dont tu as parlé, Pierre, est incontestablement là. Les mouvements de caméra, les rares reculs ou les rares travelling de ce film-là sont pensés vraiment pour nous faire mesurer aussi l'exiguïté de la cellule. Ils sont réalistes, alors que c'est tourné évidemment en décor, hein, ça n'a pas été fait dans une vraie cellule, mais du coup on comprend mieux pourquoi Melville, et puis plus tard, des gens comme Johnny Toe par exemple, aiment ce film-là, parce que en termes de topographie des lieux, on sent effectivement l'exiguïté, et cette caméra, et je terminerai là-dessus, tellement incarnée, refait rentrer le spectateur dans la cellule, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle n'est pas caméra subjective dans le sens où elle n'épouse le regard d'aucun des protagonistes à l'intérieur de la cellule, sauf qu'elle épouse le nôtre, qu'elle nous enferme à la suite de ces cinq hommes à l'intérieur de ce huis clos, dont peu à peu quand même il se distingue un personnage, je ne dirais rien d'autre, mais que la mise en scène va effectivement supputer le devenir, et ça c'est extraordinaire.
Celui qui débarque d'ailleurs, qui est Marc Michel,
Roland Cassard,
je disais qu'il avait une gueule d'ange, il a aussi une gueule très nouvelle vague lui.
Il a une gueule nouvelle vague, et Pierre a raison, c'est une écriture romanesque, c'est-à-dire qu'à un moment on écrit un personnage différemment des autres, et il aura un autre destin.
Charlotte, c'est quand même un film de mec, mais alors ultra mec.
Ah bah oui, mais si on pouvait tous les jours voir des films de mec comme ça, ça me réjouirait. Ah, je trouve ça vraiment génial. Alors là où c'est assez étonnant, c'est que les films de prison aujourd'hui, il y a la violence est là, et il y a toujours des affrontements entre les co-détenus. Or là, il n'est question que de camaraderie, de la naissance peut-être même d'une amitié et de solidarité immédiate entre eux.
Sauf qu'il y a une rivalité de classe qu'on ne peut pas complètement effacer.
Il y a quelque chose qu'il n'y a plus du tout dans les films de prison aujourd'hui. Et là où je trouve...
Qui est encore au Masque et la Plume, hein.
Ah bah, mais j'espère bien, mais je suis pas encore totalement enchaînée à mes camarades pendant des années.
Mais tu fais ton trou.
Ouais, je suis en train, je m'y emploie, Eric. Non, ce qui est assez fascinant, effectivement, Pierre et Xavier le disaient, c'est le rapport au temps et les détails. C'est-à-dire que on s'échappe pas d'une prison comme ça, et donc faire un trou, ça prend du temps. Et pour le spectateur, on mesure l'effort, la patience. Il y a une espèce de plan séquence inouï de plus de 4 minutes où ils vont avec un petit barreau de lit, essayer de démarrer le trou dans le plancher de la cellule. On se dit, non mais 4 minutes, c'est pas possible. Et vraiment, c'est millimètre par millimètre qu'ils vont gratter pour pouvoir s'échapper. Et même le moindre barreau acier, enfin, tout nous est expliqué dans les moindres détails. Enfin, si Becker avait pu rédiger les modes d'emploi d'IKEA, on pourrait tous monter des cuisines. Parce que là, chaque étape donne lieu à des séquences extrêmement, vraiment quasi
documentaires. Qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? Tu as essayé de monter un meuble?
Et il y a un réalisme, moi,
c'est
qui me plaît beaucoup.
C'est pas un film que je conseille pendant un vrai confinement. Hein,
non, non. Et il y a un réalisme qui me plaît beaucoup. D'une part, avec le jeu des comédiens qui, pour la plupart, ne sont pas professionnels, donc qui ont une oralité très particulière. Ce rapport au temps, tous ces détails. Et effectivement, cette idée de camaraderie masculine qui est très émouvante.
Éric ?
Ben, c'est un film où on voit qu'en prison, on ne voit pas le temps passer, hein, parce que ça dure 2h15 et ça pourrait encore continuer, on ne se lasse
non,
pas.
Non, là, t'exagères.
Ah,
non,
c'est bien. C'est un chouïa long quand même.
Non, mais parce que c'est aussi un film sur le travail, sur l'effort, sur la patience. C'est un huis clos où on voit ces 5 ou 6 types, je ne sais plus exactement combien ils sont.
Ils sont 4.
5 avec
Marc Michel,
le petit nouveau. C'était le seul acteur professionnel, entre guillemets, parce que tous les autres n'avaient jamais joué. Hein.
Constantin n'avait jamais joué.
Constantin, il jouait au volleyball, il paraît, à l'époque.
Ouais, il a été repéré.
Et le roi Beaulieu, il sortait de la Légion étrangère, quelque chose comme ça. Et on voit pas du tout la différence, du coup. C'est ça qui est épatant. Et c'est vraiment un film, c'est un peu, on apprend un tas de choses. Il y a le côté manuel pour les castors juniors. Xavier parlait de transformer une brosse à dents en périscope. Il y a tout ça. Comment utiliser une petite cuillère autrement que pour manger.
Et faire un sablier. Comment faire un sablier
avec deux petits flacons qu'on a piqués à la pharmacie. Non, tout est bien et le film est carré. C'est pas étonnant que Melville admirait ça. C'était quand même un modèle.
Et Truffaut,
chef d'œuvre. Il y a une minutie. Le film est millimétré. C'est un modèle du genre. Et moi, je dis à la fin, santé.
Le trou remarquablement restauré. C'est donc chez Studio Canal. Parfum de femme de Dino Risi. Film de 1974, qui ressort en version lui aussi restaurée aux Acacias, avec Vittorio Gassman, bien sûr, dans le rôle d'un capitaine à la retraite, devenu aveugle et amputé d'une main après une explosion lors d'un exercice militaire, et pour l'aider dans ses tâches quotidiennes et ses déplacements. Le capitaine Fausto Consolo dispose d'un tout jeune soldat de 17 ans, Giovanni, joué par Alessandro Momo, qui est mort dans un accident de moto juste avant la sortie du film. L'ordonnance est obligée de supporter dans le film cet officier, comment dire, irascible, fier, toujours séducteur, qui reconnaît les femmes, toutes les femmes à leur parfum. Il décide de partir pour Naples via Turin et Rome, où il veut retrouver, pour des raisons qu'on ne révélera pas, son vieux copain Vincenzo, qui lui aussi est aveugle. Donc ils arrivent à Naples, où une jeune fille absolument ravissante, Sarah, jouée par Agostina Belli, supplie Fausto d'accepter son aide, et surtout d'accepter son amour fou. Le film a eu le César du meilleur film étranger, et Parfum de femme a valu à Vittorio Gassman le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Charlotte.
Eh bien alors, autant j'ai eu beaucoup de plaisir à rester enfermée 2 heures avec des hommes dans la cellule du trou, autant j'ai pas du tout envie de partir en voyage avec un compagnon comme ça.
Juste question, tu l'as vu ou revu ?
Je l'ai vu.
Parce que moi j'avais un souvenir quand même, tu étais plus jeune que nous, très fort au moment de la sortie du film.
Alors moi je l'ai découvert là, et c'est vrai que ce personnage est tellement détestable que c'est quand même un peu difficile de même entrevoir une empathie.
Détestable et douloureux, mais en même temps douloureux, non ?
Il est douloureux sur la fin du film, mais en tout cas pendant ces 2 premiers tiers, et une grande partie du film, moi, il m'était vraiment détestable. Donc, c'était compliqué d'avoir beaucoup de plaisir à traverser l'Italie avec lui. Alors, c'est vrai que sur la dernière partie où on va peu à peu comprendre l'ultime but de ce voyage... je n'en dis pas plus. Là, les mœurs s'adoucissent un peu, on va dire. Mais en même temps, sans révéler la fin, je vais essayer de tourner autour du pot, le sursaut d'humanité qu'on entrevoit dans ce personnage à la fin, il l'est par contrainte. C'est par lâcheté, en fait. C'est même pas un véritable choix.
Là, tu commences à en dire trop.
Alors, ok. Mais... Alors, je m'arrête là. En tout cas, c'est tout à l'honneur, évidemment, de Dino Rizzi de ne pas vouloir de pitié ou de compassion sur un personnage devenu aveugle, quoi. Vraiment, il ne fait rien pour amadouer le spectateur. Et en même temps, moi, ça m'a un peu rebutée. Voilà, j'ai pas pris énormément de plaisir, même si Vittorio Gassman, quand même, hein, c'est Vittorio Gassman.
Eric, toi, t'es comme moi, tu l'avais vu.
Je l'avais vu et j'avais été très frappé à l'époque. Et en le revoyant, j'ai été assez déçu. Je trouvais que le film était laid, assez mou.
L'image a très mal vieilli.
Affreux, oui. L'image, c'est pas le seul film ce soir, d'ailleurs. Oui. Et ouais, c'est curieux de voir ça.
C'est poussif,
À part Gassman, dont on sent qu'il se régale à faire le macho méridional dans toute sa splendeur, il y a quand même pas grand chose d'autre.
Le petit Momo est très bien, le petit.
Oh, il est un peu niais, quand même, hein. Tout est un peu téléphoné, cette espèce de cynisme permanent. Ouais, c'est presque invraisemblable. C'est tiré d'un roman, il paraît, d'un écrivain italien. Mais le film est très plat, j'ai trouvé.
Moi, j'avais oublié que la petite Sarah qui tombe amoureuse, est tombée amoureuse de cet officier insupportable lors d'un concours hippique.
Oui, c'est vrai, ouais.
Ça, j'avais oublié. Petit détail, voyez.
D'ailleurs,
voir les films.
On voit où ça mène de monter à cheval. Hein, tu vois. Et je vais dire peut-être une énormité, mais je crois que le remake Le Temps d'un week-end avec Al Pacino est 1000 fois meilleur. Même le scénario et Pacino est beaucoup plus subtil. Et à la fin, je me souviens, il y a un discours devant les jeunes étudiants d'Harvard qu'il n'y a pas dans le film italien, qui vaut son pesant d'or. Oui, non, ça fait partie des déceptions, mais ça fait aussi partie des films qu'il faut avoir vus à cause de Gassman.
Xavier.
Moi, je l'avais vu, je l'ai revu et je ne suis pas déçu. Ouais, je suis désolé de ne pas vous rejoindre. Alors, il faut endurer effectivement une vision de la femme. Mais on en avait parlé il y a quelques mois à propos du sexe fou, par exemple, qui a peut-être un peu vieilli. Mais je suis étonné, c'est quand même une variation autour du Don Giovanni, de Don Juan. C'est-à-dire que nous avons ce séducteur acariâtre, méchant, qui pallie son handicap par une espèce d'hypersexualité, le membre perdu, enfin le membre phallique, qu'il essaye de récupérer parce qu'il a perdu un bras aussi, il n'y a pas que la vue qu'il a égaré.
Sur le chemin de Naples, il s'arrête quand même chez une prostituée.
Mais voilà, pour lui, c'est moins grave de perdre le bras que l'autre.
Avec une séquence que j'aime beaucoup, ce Loporello qui le suit et qui commence à...
Qu'il veut initier.
Qu'il veut initier.
plaisir de la chair.
Mais dès le départ, il y a une séquence où il lui apprend à marcher. Est-ce que tu sais marcher, lui dit-il, à l'intérieur de ce salon comme ça, très bourgeois, un peu étouffant, que quelqu'un qui ne voit pas peut habiter alors qu'il y a plein d'entraves dans son chemin. Et puis il y a cette Donne Elvire, cette femme éperdue d'amour qu'il a connue avant l'accident, qu'il a connue et qui l'aime, qui continue de l'aimer.
Enfin, plus jeune même qu'Elvire, hein, quand même.
Oui, non, mais je veux dire, dans le principe de malgré tout, malgré ce que tu m'as fait subir, malgré le fait que tu ne me regardes pas, eh bien je t'aime. Elle a une espèce comme ça de sacrifice de l'amour. Et je trouve que le film, malgré sa misogynie entre guillemets datée, mais qui en même temps raconte quelque chose aussi du pouvoir des femmes, de séduction. La scène chez la prostituée est très très drôle, avec la salle d'attente. Il en fait quand même quelque chose de picaresque. Ben, je suis désolé, mais moi ça m'émeut, ça me touche énormément. Ce personnage m'intéresse parce qu'on sent qu'effectivement il exacerbe sa méchanceté, sa misanthropie à l'égard des hommes, des femmes, de tout ce qui l'entoure. Et en même temps, il y a quelque chose de désarmant chez lui, qui arrive à comprendre ce petit Momo, ce fameux Leporello sans lequel ce Don Juan ne serait rien.
Et puis, enfin, je veux bien Don Giovanni, mais la BO du film, c'est pas Mozart. Hein.
Mais c'est intéressant, si ça aussi, cette variété italienne, même française, puisqu'on entend Michel Fugain à un moment.
Absolument.
Et j'aime bien ça parce que subitement, elle est très italienne, selon un cliché qu'on me reprochera sans doute, qu'effectivement, le film est très poreux à tout ce qu'on entend dans la rue, c'est diégétique, on l'interprète sur les terrasses, on chante dans la rue, et ça donne à chaque fois une tonalité inattendue, un peu crépusculaire, un peu joyeuse, un peu pop, un peu légère, et toujours grave en même temps au film. Non, moi je suis désolé, je suis très content de l'avoir revu.
Pierrot, toi aussi, t'es content de l'avoir revu?
Ah, moi aussi, vraiment. Je l'avais vu au moment de la sortie, et j'ai un petit peu... Non, si j'ai été un peu déçu, c'est justement vers la fin, que nous ne raconterons pas, évidemment.
Qui nous déçoit.
Parce que là, même moi, parce que je trouve ça justement un peu forcé. Mais justement, Risi a tourné énormément, beaucoup, beaucoup trop, et il a fait des films totalement inégaux. Mais ce qu'on aime chez Risi, il a fait Les Monstres, quand même, qui a un peu vieilli aussi. Mais enfin, c'est un réalisateur méchant. J'aime les réalisateurs qui, surtout à notre époque actuelle, osent peindre, enfin, osaient, et ce qui n'est pratiquement plus possible maintenant, vous rendez compte? Il peint un type qui fait que dire qu'il préfère les gens antipathiques aux gens sympathiques. Quand il crache par la portière, il dit « j'espère que le crachat atteint quelqu'un ». Enfin, je veux dire, c'est absolument impossible à faire maintenant. Il a une expression que j'aime beaucoup, il dit aux petits jeunes là qui l'accompagnent « je t'engraisserai au whisky ». Personne ne peut oser dire une chose pareille. Et il y a une sorte de...
Quand même, si.
Non. Ben non. Attends, on peut plus fumer, on peut plus boire, on peut plus rien faire dans le cinéma actuel. Et là, on voit... Et alors, il y a aussi Gassman, parce que vous avez tous passé un petit peu vite sur Gassman. Moi, j'adore les cabots comme lui. Et là, il est au meilleur de sa beauté.
Ah oui, c'est cabot XXL, là. Hein.
Ah ben non, mais c'est cabot XXL. Mais moi, j'aime beaucoup soit le cinéma des années 30 ou le cinéma italien. Et là, il est au summum de sa beauté, parce qu'il est très beau, il est jeune, il est sensuel, il est...
Charlotte est sceptique, hein.
Ah non, moi je trouve que c'est un film...
Ah non, je le trouve très beau, c'est pas la question.
Très bien, sauf les 20 dernières minutes qui sont un peu pompiers, enfin bon.
Parfum de femme, c'est Dino Risi, et c'est ressorti, restauré aux Acacias. Vous écoutez bien Le Masque et la Plume, on parle toujours de l'actualité du cinéma, et là en l'occurrence de Peau d'âne, pour célébrer les 50 ans de la féerie musicale de Jacques Demy, orchestrée par Michel Legrand, avec Catherine Deneuve dans le rôle titre, le roi Jean Marais, le prince Jacques Perrin, la marraine Delphine Seyrig, mais aussi Micheline Prel, Fernand Ledoux. Donc Arte Vidéo sort une version restaurée et les éditions de La Martinière publient un livre qui raconte l'histoire du film, livre écrit par Rosalie Varda, la fille de Jacques Demy et d'Agnès Varda, et par Emmanuel Pierrat, avec en prime le conte original de Perrault, illustré de gravures de Gustave Doré, très loin, il faut dire, des couleurs psychédéliques, j'allais dire waroliennes, du film. Avant de mourir, je vous le rappelle, la reine fait promettre au roi de se remarier seulement s'il trouve une femme plus belle qu'elle, et la seule qui corresponde à ce critère, c'est sa fille. Oui, sa fille. Donc elle s'enfuit, elle devient servante chez un prince qui, grâce à une bague tombée dans un gâteau, je ne vais pas en dire davantage, va l'épouser. Et c'est ainsi que Peau d'âne devient une princesse. Film que résume Rosalie Varda de la manière suivante. C'est la tentation de l'inceste, le fantasme d'un amour perdu, avec évidemment, et ça, Pierre a dû le retrouver, Pierrot, c'est la recette du cake d'amour.
Oh,
très important. Et l'apparition, moi je refuse toujours avec stupéfaction, des hélicoptères Alouette 2 dans le ciel de ce film. Eric, tu n'es pas toujours tendre avec Demi, est-ce que ce film-là t'a réconcilié avec lui ?
Oh ben on va être sérieux 5 minutes, c'est absolument épouvantable. C'est un truc, mais d'une laideur, d'un kitsch, d'un gnangnan. Moi j'ai été accablé. Ça fait
gnangnan.
Ça donne des bleus aux yeux. Et quand je dis bleu, c'est pas seulement le terme médical. C'est toute la première partie baigne dans le bleu là. Les domestiques ressemblent aux Schtroumpfs. Il y a du velours et des plexiglas. Les chevaux sont pas en bleu, ce qui doit pas être recommandé non plus. Et très vite, on a une overdose d'outre-mer, hein, des holkers de turquoise. Et ça continue, ça continue. On se dit c'est un film pour Liberace. Il va arriver, il va jouer au piano en armure ou en collant de n'importe quelle couleur. Amanda Lear pourrait jouer la reine qui va mourir. Ah non, mais c'est quelque chose de terrible et ouf. Tout d'un coup, deuxième partie, on passe au rouge. Alors là, les chevaux ont l'air d'avoir pris des coups de soleil dans le désert, on a une overdose de pourpre, une nausée d'écarlate, et le film, et je ne sais pas, moi j'ai trouvé ça d'un démodé, le coup de l'hélicoptère aussi, mais on met ça sur le papier, puis quand on arrive sur le plateau, on dit non, finalement, on va pas le faire, c'était une blague de fin de repas, on va effacer ça. Non, il y a un truc terrible, c'est la couleur a été pour moi la grande malédiction de Demi, qui a fait deux chefs-d'œuvre en noir et blanc, Lola et La Baie des Anges, et là, passant à la couleur, ça l'a complètement détruit, et la fameuse séquence où Deneuve se prend pour Maïté et nous prépare son cake d'amour, là, ça, on atteint le pompon, et d'ailleurs, j'ai fait la recette, et je peux vous dire, c'est immangeable.
Oui, oui, tout le monde l'avait fait.
Xavier,
tous essayé.
Rick, tu as le droit à tout. Non, non, mais tu as le droit à tout, tu as le droit de ne pas aimer. Mais tu as commis l'irréparable, tu as parlé de gnangnan.
Ah oui.
Preuve que tu n'as pas regardé le film, que tu l'as mis dans ton lecteur de DVD, que tu allais faire autre chose, que tu as repéré les cheveux bleus, les cheveux rouges, et tu as écrit ta critique en fonction de cette dichotomie chromatique. Le film est tout sauf gnangnan. Il est d'un subversif, parce que le résumé de Jérôme oubliait une chose. Elle ruine son père en lui demandant la peau.
Ah, moi, j'allais pas tout raconter.
Bah, peau d'âne, c'est le début, quand même. Pourquoi est-ce qu'elle se trimballe avec une peau d'âne sur le, c'est pas par plaisir, ni parce que c'est une création de grand couturier. C'est extrêmement subversif. C'est extrêmement entre les mots dans les dialogues.
Rien que l'idée de l'inceste.
Mais rien que l'idée de l'inceste.
Dont parle.
Que Demi, qui traverse l'ombre de Demi, hein, qui a été amorcé bien dans sûr. Les modèles de Rochefort et qui sera concrétisé dans Trois places pour le 26. Mais c'est un film dont le dialogue, dans les détails, qui est extrêmement incisif, qui est extrêmement méchant, qui est extrêmement drôle, qui est d'un modernisme, mais absolu. Alors, peut-être qu'on peut reprocher, moi pas, je suis fan absolu du début jusqu'à la fin, de la couleur et de ce côté comme ça débordement de teintes, mais en même temps quand on écoute les dialogues, il y a un moment où le roi donc refuse de se remarier puisque on lui dit mais prince, enfin, roi, il faut absolument quand même que vous,
le roi, je rappelle, c'est Jean Marais,
il faut quand même que vous,
ça relativise la performance parce qu'il joue comme un cochon en plus, hein.
Mais pas du tout, il est absolument magnifique,
il a toujours été mauvais acteur, ouais, ouais.
Et on lui apporte comme ça des petits portraits,
les chevaux jouent mieux
et les commentaires d'une méchanceté absolue qu'il a sur ces petits portraits comme ça où les jeunes femmes ont été mises à leur avantage mais n'y arrivent absolument pas, jusqu'au moment où il tombe sur le portrait de sa fille, il retombe amoureux de façon absolue. C'est pour moi un chef-d'œuvre complet qui me met toujours en joie, que je connais par cœur. Je pourrais réciter tous les dialogues de Delphine Seyrig qui sont extraordinaires.
Est-ce que tu pourrais les chanter, les chansons?
Mais bien évidemment, mon enfant, je les connais par cœur. Et dernier petit détail, avez-vous remarqué quand même dans la cour de la ferme à un moment un jeune comédien qui fait ses débuts et qui s'appelle Coluche.
Coluche, ah ben, je l'ai pas
connu. Eh ben ouais, absolument. Eh ben,
il s'en est pas vanté d'ailleurs.
Il y a Coluche à un moment qui est là avec sa petite pelle. Enfin, je ne sais plus très bien ce qu'il a. Je ne connais pas très bien et qui joue avec le foin.
Pierrot.
Ben moi, je suis un fan absolu de Demi, donc j'aime beaucoup ça. Enfin, il y a des gens qui détesteront toujours Demi. On a eu la preuve au masque quand tu as mis Jérôme les parapluies de Cherbourg il y a quelques mois au programme. Je ne m'attendais pas à une telle réaction discordante et elle a eu lieu. Donc moi, j'attends.
Y compris
que
d'ailleurs, je précise, chez les auditeurs qui étaient vraiment partagés.
Oui, oui, oui.
Les allergiques et les fanatiques.
Mais absolument, c'est ça. Et j'attends que tu remettes pour le troisième confinement au programme une chambre en ville. Une chambre en ville, on va s'étriper.
Confiner dans une chambre en ville, non.
Là, même les fans de Demi vont s'étriper entre eux sur une chambre en ville.
Triper entre eux, donc c'est pour ça que j'attends que tu remettes une chambre en ville.
Bon, c'est là, un chef-d'œuvre, on s'est triper.
Absolument. Le revoir le film, j'avais oublié qu'en fait c'est le Premier ministre, c'est-à-dire Sacha Pitohef, qui propose au roi l'inceste, parce qu'il n'y pense pas au départ, et c'est lui qui dit « moralité ». Un roi doit toujours se méfier du Premier ministre. Et je trouve ça extrêmement d'actualité.
Non, ministre aux affaires familiales, en plus.
Non, mais c'est surtout l'élégance. C'est drôle, Eric, tu vois pas l'élégance de la mise en scène. La façon dont il utilise le ralenti. Plus personne ne savait utiliser le ralenti.
Je trouve que les premiers films de Jean-Yann sont plus élégants que
Jean-Yann. Il arrive à utiliser le ralenti de façon absolument magnifique.
On n'a pas le droit, les ralentis.
Mais non. En plus, c'est des allusions, évidemment, à Cocteau. Il y a des poèmes d'Apollinaire. Le texte de l'apparition d'Elphine Séry, dont la première, une des premières répliques, je ne sais pas, Xavier, tu vas me corriger, c'est « Mais ne plairai pas, mon enfant, parce que les larmes, ça abîme le visage.
Enfin, » ça creuse le visage.
Et quand ça creuse et ça abîme le visage.
Et tu ne dis rien, Pierrot, de ton amour, Micheline Prel ?
Ah, Micheline Prel...
Génial !
Elle est formidable.
Tu la cites même pas ?
Alors, en le revoyant là, il me semble que la partie bleue est un tout petit peu meilleur que la partie rouge, mais c'est un détail, c'est quand même un film.
Charlotte.
Mais je pense qu'il faudrait qu'Éric fume les cigarettes artistiques qu'ont fumé Jacques Demy et Agnès Varda dans leur séjour aux États-Unis juste avant de faire ce film. C'est
Rosalie Varda. Mais ce qui explique les couleurs varoliennes de.
Oui, mais Rosalie Varda l'explique très bien, effectivement, dans le livre. C'est un film sous influence flower power et pop culture. Demy et Varda ont été vraiment plongés là-dedans pendant 2 ans et, clairement, le scénario a été écrit avec ça. Rosalie Varda ne se cache pas que le cake d'amour, on peut y voir un space cake. Quand on écoute... Mais oui, vraiment. Oui, quand clairement. On écoute certains détails des chansons, je pense notamment au rêve secret d'un prince et d'une princesse, quand ils tombent amoureux et qu'ils disent « on fera tout ce qui est interdit, on fumera la pipe ». Et tout ça, on sait très clairement à quoi ils font référence. Donc pour un film gnangnan, tel que tu le dis, Eric, franchement, on repassera. C'est clair que c'est une sorte de film étalon de la féerie et du merveilleux au cinéma. Oui, exactement. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que clairement, on voit que Jacques Demy n'a pas eu les moyens de son imaginaire. Je parle de moyens de production, d'argent.
N'empêche, l'hélicoptère...
Oui, mais à part l'hélicoptère. Coup, il y a cette espèce de style très singulier et assez unique et même paradoxal qui est à la fois foisonnant et épuré. C'est-à-dire que les décors sont somptueux, mais il n'y a quasiment personne dedans, il n'y a pas assez de figurants, c'est très peu meublé. Donc, on imagine aussi le film qu'il aurait fait s'il avait eu le double des moyens de production. Et finalement, ça a fait ce style alors auquel Eric est totalement hermétique, mais qui a fait la joie des grands et des petits quand même pendant des générations. Et on peut dire aussi que c'est quand même un film qui plaît beaucoup aux enfants. Moi, je l'ai montré à mon petit garçon de 5 ans et demi. C'est le premier film qu'il voit en dehors des films d'animation et les enfants se régalent.
Peau d'âne, c'est donc de Jacques Demy. Ce sont les 50 ans de ce film. Et donc, vous avez la version Arte Vidéo, vous avez aussi l'histoire du film aux éditions de La Martinière, dans le livre signé Rosalie Varda. Allez, Lorenzo, film de 1992 dont nous parlait cet auditeur en début d'émission de Georges Miller, long de 2h15, qui ressort donc en VOD et DVD Blu-ray chez Elephant, et c'est le film le moins connu, je le disais pour moi, du réalisateur australien de Mad Max. Il s'est inspiré de l'histoire vraie d'un couple italo-américain, les O'Don, qui a lutté pour trouver un traitement capable de sauver leur fils de 5 ans, Lorenzo, atteint d'une maladie rare que je ne connaissais pas, l'adrénoleucodystrophie, qui s'attaque au système nerveux central, entraîne la surdité, la cécité, la paralysie et la mort. Les parents courage sont incarnés ici par Nick Nolte et Suzanne Sarandon, et leur traitement est baptisé, et toujours baptisé, l'huile de Lorenzo. Ce qui m'a frappé en le découvrant, c'est que c'est le contraire du film Tire-larme. Scientifiquement, c'est assez poussé, et c'est signé par Georges Miller, dont je rappelle qu'il a fait, comme Xavier Le Herpeur, des études de médecine. Un film qui a été, à sa sortie, un bide incroyable. C'est-à-dire que on pourrait imaginer qu'après les Mad Max qu'il a fait ensuite, c'était déjà un réalisateur à succès. Non, ça a été un bide. Lorenzo, t'es d'accord, scientifiquement, médicalement, c'est assez poussé, non ?
Ah, c'est assez poussé.
Docteur Le Herpeur.
Peut-être la seule bonne partie du film qui n'a pas pris un méchant coup de vieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté presque documentaire dans la manière dont c'est deux parents, lui italien, et Dieu sait si Nick Nolte en fait des caisses dans le registre.
Il a travaillé son accent.
Quand même, c'est pas très subtil. Et puis, son épouse dévouée, sacrificielle, qui est Suzanne Sarandon, vont apprendre la médecine dans les livres, à s'épuiser dans les bibliothèques municipales, à chercher de la littérature, à essayer de recouper, à essayer de comprendre cette maladie qui est une chaîne très compliquée d'enzymes. Bon, ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a un dessin à un moment de lavabo qui est une espèce de métaphore comme ça de la maladie de l'enfant. Mais pour le reste, pas tir à l'arme. Ah, il n'y a pas un travelling qui ne s'arrête sur la souffrance de l'enfant crispé qui en fait des caisses
c'est
en gros
blanc.
Attends, si quand même, on n'en a pas besoin, il faudrait qu'il soit
Il le filme comme l'exorciste, l'exorciste.
Je termine, Charlotte Lucascal, c'est pas beau. Un travelling de temps en temps, je veux bien un gros plan sur les mimiques du gamin qui effectivement montre sa souffrance, mais il y en a des jusqu'au bout. Le pauvre enfant, il est exploité et par la maladie et par le film. Alors on va me dire, ça y est, il n'a aucune compassion pour les enfants malades. Si, j'en ai, comme tout le monde, bien évidemment. Mais le film, quand même, essaye d'amadouer le spectateur, de le mettre dans son camp. Et il y a un moment où il faudrait le choisir. C'est la rigueur médicale qui transcende le scénario. Elle est contredite, quand même, par cet excès de mélodramaturgie, mais d'une lourdeur sans nom. Non, moi, c'est un film... J'ai vraiment eu du mal, je ne l'avais pas vu à l'époque et je regrette presque de l'avoir vu.
Charlotte.
Alors moi, c'est un film que j'ai découvert, je le connaissais pas. Et c'est vrai que ça paraît sur le papier aux antipodes de Mad Max. Et pourtant, on se dit que c'est quand même un film d'action, là encore. C'est-à-dire que les parents, confrontés à ce drame terrible, refusent d'être dans l'attente de la recherche médicale, dans l'attente que les médecins leur disent quoi que ce soit. Ils sont dans l'action. Ils veulent comprendre.
Moi, c'est ça qui m'a intéressé le plus.
Et
dans
donc,
ce...
ils ont une démarche extrêmement active, qui est très étonnante, venant de deux personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu médical. Ils vont faire quand même leurs études dans un temps très raccourci. Et qu'évidemment, on voit très bien la confrontation de temporalité entre la temporalité des parents et de ce pauvre enfant malade pour qui le temps est compté. Donc non, ils ne vont pas attendre 2, 3, 4 ans qu'on trouve, qu'on fasse des essais, que ce soit approuvé par la législation et tout ça. Et donc il y a le temps des parents qui n'est pas du tout celui du temps de la médecine et de la recherche. Et donc dans cette
confrontation-là, ils veulent le sauver
tout de suite. Parce que cette maladie, l'enfant est condamné à deux ans. Donc ça va très très vite. Après, ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que Miller a quand même encadré son film d'un certain mysticisme. Le plan d'ouverture, on est avec un chant en swahili, comme ça sur ce peuple d'origine, et parce que les parents ont vécu aux Comores, et se termine sur un plan aérien de la chapelle Sixtine, en passant par la seule petite victoire de ce Lorenzo, à savoir un tout petit doigt qui bouge et qui est vraiment filmé comme la création d'Adam de Michel-Ange. C'est clairement sur ce doigt-là. Donc, il y a une certaine emphase avec la musique d'Albinoni, la cinquième de Mahler, c'est sûr qu'après Mort à Venise...
On n'en peut plus de cette
musique. Néanmoins, je trouve le film assez intéressant dans la filmographie.
Pierrot.
Ah bah la musique, rien que la musique.
Mais ça, je suis d'accord.
Ça, on n'en peut plus.
Mahler et la pauvre Norma, qui n'a rien demandé à personne, qui est un opéra absolument sublime, mais la façon dont il a... Et alors, la Norma, et puis alors Suzanne Sarandon, qui se rejette en arrière et qui a les yeux au ciel pour en pleurer. Non, mais c'est absolument insupportable.
Il y a des piétas toutes les 5 minutes.
Ah non, c'est terrifiant. Alors, je crois que le film a été un échec à l'époque. Maintenant, il peut marcher très fort parce qu'il est tout à fait dans ce que tu as dit, Charlotte. C'est-à-dire, on fait pas confiance à la médecine. C'est-à-dire que si la médecine dit quelque chose, elle se trompe. On est dans une période de doute où tout le monde est mis en doute, y compris la médecine, la science et tout. Donc, c'est l'individualisme qui l'emporte. C'est-à-dire, les parents ont raison et ils vont gagner. Donc, ça va accréditer la thèse que tous les scientifiques ne connaissent rien et allons-y tous, clairement, ce qui est un petit peu dangereux. Mais, quand tu dis, Jérôme, que c'est pas tire-larme, si,
ah non, moi, j'étais constamment.
Mais on a le droit d'aimer ça. Je comprends
Love
très bien.
Story, c'est tire-larme.
On va recevoir tous des lettres en disant, vous êtes des insensibles, des crétins.
C'est vrai.
Mais c'est pas un mélo, Pierre.
On est insensibles et tout. Mais vraiment, c'est pas possible. Quand même, George Miller, Mad Max ou pas, c'est un épais, quand même. C'est un gros épais.
Vous êtes quand même vache, parce que Miller a réussi un exploit, c'est tirer un navet d'une bouteille d'huile d'olive. Alors ça, scientifiquement, faut le faire. Mais ça dégouline, ça colle aux doigts. C'est les ralentis, la musique, les airs d'opéra, l'adagio de Barber. Et les gros plans de traviole. Non, c'est effrayant comme film, ça n'en finit pas. Et c'est presque obscène, moi, je trouve, la façon de filmer ce gamin qui se ratatine.
Vous n'avez pas le sentiment d'être un peu excessif?
Ça dure 2h15. Et puis, si Pierre a raison, c'est un peu long. Complètement dans l'air du temps, parce que dans le film, l'huile d'olive, c'est un peu la chloroquine d'aujourd'hui. Et Ustinov, avec sa blouse et son nœud papillon, c'est l'anti-Raoult qui dit « Attention, on va pas faire ça tout de suite ». Et là, il y a quand même un dialogue à ce moment. Nick Nolte avec ses cheveux teints puis son accent de pizzaiolo qui serait né à Argenton-sur-Creuse. Ustinov lui dit « Je suis un scientifique ». Et Ustinov lui répond « Et moi, je suis un père ». Je ne laisserai personne me dire comment assaisonner la salade de mon fils. Et là, moi, ça me tire pas des larmes, mais ça me fait rigoler. Je suis désolé.
Lorenzo de Georges Miller, c'est donc chez Elephant. Allez, il ne reste pas beaucoup de temps. Comme le trou de Becker, le goût du saké, qui date de 1962, est l'ultime film réalisé par Yasujiro Ozu, sorti un mois, mais vraiment un mois pile avant sa mort. Film donc testamentaire, dont le héros est un veuf qui vit avec sa fille. Le soir, quand ce cadre au bord de la retraite sort de son entreprise industrielle, et ben il retrouve ses amis pour boire du saké, comme le fait souvent, je le sais, Xavier, et l'un d'eux lui propose un gendre pour sa fille, et soudain, il comprend qu'il va se retrouver seul, et donc il s'oppose à cette idée du mariage jusqu'au jour où il croise un de ses anciens professeurs dont la fille a sacrifié sa jeunesse pour s'occuper de son père. On trouve ce goût du saké dans un très beau coffret qui s'appelle Ozu en couleur, publié par Carlotta, qui contient en outre, tous pareillement restaurés, Fleurs d'équinoxe, Bonjour, Herbes flottantes, Fin d'automne et Dernier caprice, Carlotta qui publie également Les carnets du cinéaste 1933. Ce goût du saké, oui, Xavier, tu...
C'est une merveille absolue, mais tout Ozu, de toute façon, est extraordinaire. Le coffret dont tu parles, qui est annoncé 6 films d'Ozu, il y a Tromperie sur la marchandise, il y en a 10. Ils ont la gentillesse de nous offrir 4 films de la toute première époque d'Ozu en supplément. Revoir ce film, moi j'avais oublié à quel point Ozu est vraiment un formaliste en plus. Il y a un travail sur la mise en scène, sur les perspectives, sur la construction du décor qui est époustouflante. C'est un film sur la fracture de deux Japons. Vraiment, il y a à la fois le Japon des cadres et le Japon prolétaire, que l'on aperçoit à certains moments. Il y a le Japon des femmes et le Japon des hommes. Il y a le Japon de ceux qui ont connu la guerre et ceux qui ne l'ont pas encore connu. Il y a le Japon occidentalisé et le Japon traditionnel. C'est un film d'une richesse, d'une intelligence extraordinaire. La mise en scène est sublime. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire.
Et une sobriété incroyable.
C'est bouleversant. Une jeune femme qui s'effondre en larmes un soir parce que son père l'a sacrifiée à son propre égoïsme et qu'elle est toute seule dans un bar et qu'elle prend conscience que sa vie n'existera jamais, ben moi c'est une des scènes les plus belles, les plus poignantes. Il n'y a pas besoin de faire de travelling, il n'y a pas besoin de convoquer Barber, c'est juste extraordinaire.
Pierrot ?
Ce qui est génial, c'est la façon dont il filme. Il fait durer le plan 1 ou 2 secondes de plus, quelquefois, sans qu'il se passe quelque chose, juste pour faire entrer la sensibilité. Et le plan auquel tu faisais allusion, cette femme qui brusquement s'effondre en larmes.
Et moi, la fille du professeur.
Voilà, ça me rappelle Tchekhov, enfin, c'est cette espèce de compassion, d'indulgence dans le regard, et en même temps avec de l'humour, parce qu'il y a une scène absolument magnifique où il y a un ancien compagnon du héros qui lui dit « Ah, mais si nous avions gagné la guerre, pourquoi a-t-on perdu la guerre ? Si nous avions gagné la guerre, ben, ce seraient les petits New-Yorkais aux yeux bleus qui maintenant mangeraient des plats japonais. » Et l'autre fait « Bon, on a bien fait de la perdre, alors. » C'est inouï de tendresse.
Et moi, j'étais très frappé en le revoyant. J'avais oublié que c'était son dernier film. Et donc, je l'ai lu aussi à la manière d'un testament, enfin de quelque chose qu'on veut laisser avant de disparaître.
Mais c'est éblouissant et bouleversant de la première à la dernière image.
Eric.
Ah bah c'est parfait. Il a eu raison de partir après ce film. On peut pas faire mieux que ça, le type. C'est quelque chose d'inouï. Il filme comme il respire. C'est simple comme Bonjour, tout ce qu'on voit sur l'écran. Mais comme disait Truffaut à propos de je ne sais plus qui, est-ce que Bonjour est si simple? Parce que on est chez Tchekhov, là. Rien n'est dit. Tout est montré. Xavier a raison. La mise en scène est vraiment impeccable aussi. C'est que chaque chapitre, mais chaque séquence est ponctuée par des plans de cheminées d'usine, de réverbères, d'enseignes lumineuses. Et c'est de la poésie pure, et ça fait avancer l'action. Et on voit tous ces personnages là, il ne leur arrive rien. Ils veulent marier leur fille ou ils veulent s'acheter un frigo, mais c'est leur vie. C'est presque un drame. Et il y a ce passage où ils invitent leur ancien professeur au restaurant et le vieux se saoule. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il mange pour la première fois du congre et il dit ça, c'est un poisson de riche. Et tout est dit dans ces moments-là. Et la caméra à hauteur du sol, c'est aussi une figure de style. C'est un type qui est vraiment un artiste, un poète, qui aurait pu être un écrivain et qui a un univers à lui qu'on reconnaît tout de suite.
Charlotte.
Oui, c'est l'observation, quoi. C'est-à-dire la caméra est là au bon endroit et il l'observe. C'est-à-dire comme si on a l'impression que Ozu ne voulait absolument pas donner sa subjectivité sur les personnages. Il nous laisse à nous spectateurs le soin d'y mettre tout ce qu'on veut. Il y a une sorte d'abstraction du style. C'est que des plans fixes, les acteurs toujours au même endroit dans le plan, à la même hauteur de regard, des plans même vides sur la fin, qui sont les plans pour moi presque les plus émouvants, parce que c'est là où on constate véritablement l'absence des êtres de ceux qui sont partis. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans celui-là, c'est le rôle de Michiko et vraiment son regard sur la femme, parce que la femme japonaise à cette époque-là, elle est vraiment tiraillée entre ses désirs d'émancipation et son sens du devoir. C'est-à-dire, ça n'est plus la femme soumise japonaise et elle est encore quand même beaucoup dans le respect des aînés, quoi. Donc c'est cet entre-deux, la fracture dont parlait Xavier tout à l'heure, qui est très intéressante. Ouais, c'est entre fatalisme et nostalgie. Alors après, je suis très admirative de cette mise en scène, mais moi, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas du tout comme vous. Non, je ne suis pas du tout émue. Je trouve ça même assez froid, tout en étant très admirative de cette mise en scène.
Le goût du saké d'Ozu, c'est donc dans ce coffret qui sort chez Carlotta, Ozu en couleur, avec donc les films en couleur, comme le titre l'indique, de la fin des années 50 de ce très grand cinéaste. Et on termine pour saluer la mémoire de l'immarcessible Sean Connery, disparu le 31 octobre dernier à 90 ans. On termine donc avec Bon baiser de Russie, on avait le choix hein, pour Sean Connery, de Terence Young, film sorti en 1963, disponible sur Canal VOD et en DVD Blu-ray chez MGM. On est évidemment en pleine guerre froide et cette fois James Bond est chargé de récupérer une machine de déchiffrement soviétique, le Lector, convoité par le Spectre qui connaît le point faible de 007, les femmes, et ça se déroule à Venise, à Istanbul, à Zagreb, Londres et surtout dans l'Orient Express. Charlotte ?
C'est chouette de voir toutes ces premières pierres en fait, qui ont été posées pour la légende de James Bond. C'est le deuxième dans l'histoire, mais c'est la première fois qu'il y a le fameux pré-générique. C'est là où on introduit le personnage de Q, celui qui fournit là tous les gadgets, qui va être là pendant très longtemps. Et moi, je me régale. Il y a déjà des scènes d'action très spectaculaires pour l'époque, avec deux courses-poursuites assez dingues. Il y a une lutte de corps à corps de James Bond avec le gros méchant dans un train qui est incroyable. Enfin, je veux dire, on les voit vraiment, ils sont pas doublés en termes de cascade de corps à corps, c'est assez balèze. Après, il y a un rapport aux femmes.
C'est pas la mise en scène d'Ozu. Hein.
Non, clairement pas. Après, là, Daniela Bianchi, elle existe vraiment, elle a un rôle vraiment qui existe. Mais bon, c'est une époque où il arrive chez lui à l'hôtel et il y a déjà une femme dans son lit. Bonsoir James, elle est là et elle est déjà dénudée. Ok, tout va bien. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est au-delà de la guerre froide, c'est que c'était un James Bond plus modeste. C'est-à-dire que là, tout l'enjeu, c'est récupérer un boîtier. Les James Bond d'aujourd'hui, c'est sauver le monde. Quoi, il y a une espèce de surenchère. Là, on était plus modeste, mais vraiment, qu'est-ce que ça marche, quoi.
Pierrot.
Il y a la sensualité de Sean Connery, parce que à l'époque,
il est magnifique déjà.
Et, il est sublime.
Pull sexe.
Oui.
Absolument. Même il dit les choses telles qu'elles sont.
Quand tu penses à Daniel Craig. C'est Poutine.
Sean Connery quand même quand il apparaît là, quand il sort de la chambre, quand il rejoint Daniela Bianchi, il est absolument époustouflant là.
D'accord.
Mais absolument. Donc il y a ça, et puis il y a en effet une modestie de l'intrigue qui m'a appelé beaucoup. Moi, c'est un film que j'ai lu 7-8 fois quand il est sorti, parce que j'étais fou de James Bond à l'époque. Mais il y a aussi beaucoup... Moi, j'aime beaucoup le personnage. Les méchants sont toujours très importants. Et par exemple, là, il y a Lotte Lenya, qui est la femme de Kurt Weill, qui joue la méchante russe, qui passait au Smersh et qui est lesbienne, et qui a des chaussures à pointe phallique, quasiment, qui empoisonne. Ça, elle est magnifique. Et puis Robert Shaw, un autre méchant, et qui est démasqué à un moment donné, parce que dit James Bond, à un moment donné, il comprend, il a mangé une seule meunière avec du vin rouge, ce qui lui aurait fait, dû faire Chianti, comprendre,
oui.
Du Chianti, on ne fait pas ça, et donc c'est un méchant. Voilà, donc c'est un film très 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 réjouissant.
Et Xavier,
qui met quand même une petite heure à démarrer. Hein. Je voudrais pas être méchant.
Oh, mais...
Non. La scène dans le camp des gitans, mes enfants, c'est pas possible. Elle est interminable de pittoresque.
Oh, mais c'est le château de Podane.
Le petit Disneyland de la gitanerie là, c'est pas admissible, quand même, et avec toutes ces filles qui
se... Dommage à Fellini, avec Aziz Ansari.
Mais il y a plein d'hommages. Après, je suis comme toi, c'est le début des méchantes lesbiennes dans James Bond, qui est assez audacieux, puisque dès le suivant, dans Goldfinger, c'est carrément la James Bond girl qui sera lesbienne. On retrouvera ça avec Grace Jones dans le très mauvais Dangereusement Vôtre, avec l'ignoble Roger Moore. Donc, effectivement, ça se met en place. Après, rien que pour la partie dans le train qu'évoquait tout à l'heure Charlotte, et ben là, effectivement, le film enfin démarre, c'est le cas de le dire, et il y a une dernière heure qui est assez saisissante.
Dans le train, c'est quand même l'Orient Express, hein.
Mais pas, pour le pas, reste, ça a pris un petit coup de vieux quand même, les enfants.
Quelques mots, Eric.
Il y a toute la panoplie qui s'annonce, là. Les gadgets, le whisky, les petites pépées, la Russie, enfin, l'URSS, et Sean Connery, un bel animal. Et
puis, magistral.
Ah oui, non, puis c'était une époque où les héros n'étaient pas bodybuildés, ne se rasaient pas le torse, et on avait un vrai mec, là. On comprend que toutes les filles l'attendent dans la chambre, sur le lit. Et l'intrigue, toujours un peu à bracadabrante, mais ça fait partie du lot. Dès le début, on voit une histoire où il y a un masque de Sean Connery. Ce sera repris dans Mission Impossible avec Seymour Hoffman. C'est un film culte. Il paraît que ceux qui adorent 007, c'est leur préféré, celui-là.
Il y a au service secret de Sa Majesté.
Ah bon, alors.
Oui, mais c'est pas Sean Connery.
Il y a un hélicoptère, mais ça n'est pas celui de Jean Marais, à un moment donné. Heureusement.
Et on apprend que Sean Connery 007 tire très bien. Dans tous les sens.
C'était l'époque où un film comme ça, qui est quand même anodin, était interdit au moins de 12 ans. C'est dire si nous vivons dans un monde dépravé aujourd'hui. Et c'est aussi, paraît-il, le dernier film qui est vu John Kennedy avant de se faire assassiner. Donc, si vous le voyez, mettez tout de suite un autre film après, parce que c'est dangereux de sortir dans la rue.
Bon baiser de Russie de Terence Young, avec Sean Connery, sur Canal VOD ou en DVD Blu-ray chez MGM. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On va commencer par Pierrot.
Alors c'est en DVD chez Rimini, La vengeance d'un acteur, qui est un film japonais de Kon Ishikawa, de 63. C'est un film absolument étonnant. C'est l'histoire donc d'un acteur de kabuki, donc déguisé en femme, et le titre français dit tout, il veut se venger de ceux qui ont fait pousser à la mort ses parents. Ishikawa filme ça dans un style à la fois théâtral, mais au bon sens du terme, épuré, stylisé, avec des ombres, des lumières, pratiquement sur un seul décor, c'est absolument étonnant.
Et donc, c'est vraiment, chez Rimini, hein.
Chez Rimini, ça s'appelle La vengeance d'un acteur, et ne le ratez pas.
Le conseil de Xavier.
Je suis complètement d'accord. Alors, c'est le grand saut, un film de 58, Le monstre des abîmes, de Jack Arnold, qui sort chez Elephant. J'ai un peu égratigné Lorenzo tout à l'heure. Jack Arnold, pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs de séries des années 50-60. Créature du lac noir, par exemple, Tarantula. Et on s'aperçoit que Jack Arnold, effectivement, tout en sacrifiant au cahier des charges des films d'horreur avec des monstres mutants et des choses comme ça, est un des cinéastes qui a le mieux parlé de la schizophrénie américaine dans les années 50, de la paranoïa naissante, de la guerre froide, de la manière dont les Américains se méfiaient de tout le monde. Et là, il y a, au début du film, une chaîne de contamination qui fait particulièrement peur en ces temps de pandémie. C'est absolument formidable. C'est fauché, c'est avec des masques en caoutchouc, mais il y a un sens de la mise en scène de l'économie qui est vraiment la caractéristique de cinéaste qui signera un chef-d'œuvre absolu, qui est L'homme qui rétrécit, un an plus tôt. Donc 58, Le monstre des abîmes, c'est chez Elephant, qui ressort d'ailleurs tous les films de Jack Arnold, et redécouvrez ce grand metteur en scène des années 50.
Le conseil que, pour ma part, je vous donne, c'est de voter pour le 31e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Comme chaque année, je vous propose de voter pour le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de cette tempétueuse année 2020. Vous nous écrivez avant le 20 décembre vos deux choix sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr, à la page courrier ou réagir, et nous décernerons le prix, votre prix, en début d'année prochaine, ici au Théâtre de l'Alliance Française. Le conseil de Charlotte.
Blier le comte Tavernier, trois vies de cinéma. C'est une série documentaire sur Canal. Le réalisateur Chad Chenouga a eu l'excellente idée de réunir ces trois grands cinéastes dans une même pièce et de les faire converser de leur rapport au cinéma, leur rapport aux acteurs, aux producteurs, des souvenirs de tournage, le succès, les échecs. Et c'est absolument réjouissant parce que c'est trois tempéraments extrêmement différents. Évidemment, Tavernier, puits de science, le comte tout en enthousiasme et en joie de vivre. Blier, beaucoup plus taciturne et misanthrope, qui parle moins, mais dès qu'il l'ouvre, il en décoche une. Ça regorge d'anecdotes, on apprend beaucoup de choses, c'est vraiment réjouissant et c'est à voir sur Canal+.
Et enfin, le conseil d'Éric.
Ça ne se fait pas, mais je vais recommander un film qui sort sur Netflix, c'est le dernier David Fincher, Mank, sur Herman Mankiewicz, le frère de Joseph, qui était le scénariste de Citizen Kane.
Et c'est je précise juste que nous en parlerons au prochain Masque Cinéma, dans 15 jours.
Il ne faut pas rater ça, c'est un film assez étrange, un peu méandreux, en noir et blanc.
Assez long.
Assez long, mais qui est inspiré de la structure de Citizen Kane, et qui est un chant d'amour au cinéma, à Hollywood, à ses méfaits, et à ce que c'est qu'être un artiste, avec Charles Dance qui fait un Randolph Hearst absolument impérial.
Et celui qui joue Orson Welles, c'est pas mal non plus.
Pas mal non plus en génie arrogant. Et le film est très mystérieux parce qu'on ne saura jamais quel est le Rosebud de ce scénariste alcoolique et mort à 55 ans dans l'oubli.
Le scénario d'ailleurs étant écrit par le père.
Par le père, et Fincher a mis 25 ans à pouvoir réaliser ce film.
Encore une fois, on en parle au prochain Masque, le manque de Fincher. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Éric Nehoff, Pierre Murat et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir au théâtre de l'Alliance Française de la Technique, il y avait, et je les remercie, Bernard Laniel ainsi que Julie Garraud pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parle de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.